bonjour, nous sommes jeudi le 19 juillet. Vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine. Je fais bien ça jusqu'à présent.
Oui,
c'est Yvan Delaurier qui est au micro. Mais pas tout seul. Je suis avec Monique Kerouac. Non, ça c'est un gag parce que la semaine passée, t'as un petit peu mélangé le nom de Maurice.
Oui, je l'ai appelé Mathieu.
Tu l'as appelé Mathieu. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais le venger sur ton nom. Et la troisième comparse, qui est là.
Tout à fait. Qui est toute là.
Marie Lalande.
Bonjour.
Et Marie, qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui?
Moi, je vous parle de basket comme moteur d'inclusion sociale et d'éducation citoyenne.
Mais c'est dans le champ
de... sujets, ça,
de...
Oui, je déborde.
Tu débordes.
Ça se passe à Lyon, en France. Et dans une autre intervention, je vais vous parler de l'enseignement aux garçons. Comment on peut se préoccuper de l'enseignement aux garçons?
Je me sens visée.
Ben oui.
D'accord. Monique Kerouac.
Oui. Alors, moi, je vais vous parler d'apprentissage, mais d'apprentissage d'une langue seconde ou étrangère. En Europe, on dit plutôt langue étrangère. Et ici, langue seconde, si on parle pour nous, par exemple, de l'anglais. Okay. Alors, y a-t-il un âge idéal pour réussir cet apprentissage?
OK.
Et ensuite, je vous parlerai de science, mais cette fois-ci, je ne parlerai pas de recherche, mais je vous parlerai d'un fait, en fait, qui concerne la Lune, Montréal, et voilà.
Oh. Un fait, la Lune, Montréal.
Ouais.
OK, on va penser à ça.
D'accord.
Et toi, Yvan?
Moi, de mon côté, c'est deux témoignages, deux histoires de gens qui ont décidé de sortir de leur fauteuil.
Ah, ça serait intéressant.
Et après ça, de ne pas retourner s'asseoir dans leur fauteuil avant un bon petit bout de temps. Alors, c'est notre émission ce matin. Alors, c'est Maurice Bolduc qui va essayer de mettre un peu de discipline là-dedans, en commençant par un petit peu de musique. Alors, c'est moi qui commence, vu que c'est moi qui anime. Et
ah bon?
Il n'y a aucun rapport. Hein?
Il y a comme des équations qu'on doit faire.
C'est quoi le dicton? À tout honneur, tout seigneur. Voilà.
Et je vous parle de deux personnes qui ont élaboré un plan de retraite bien particulier.
Mm-hmm.
Alors, l'article s'appelle « Leur plan de retraite ». Ça a été écrit par Sophie Allard. Ça a apparu dans la presse du 18 juillet 2018, donc hier. Il leur faudra d'abord se procurer un nouveau tandem. Leur vélo a été fortement endommagé dans le transport en avion de retour du Brésil. Une mauvaise surprise nous attendait à notre arrivée. Pendant 10 ans, ce vélo nous a rendu de précieux services. On ne l'oubliera jamais, nous dit Hélène. C'est vrai, quand on a un vélo, on s'attache. En couple depuis 2008, Hélène Giguère et Normand Pion de Belœil vivent pour pédaler, pour voyager à vélo. Dès qu'ils le peuvent, ils roulent. C'est comme ça depuis leur rencontre. L'idée de partir pendant 2 ans a d'abord germé dans la tête de Normand. « C'était mon plan de retraite », dit cet ancien directeur de compte en financement commercial chez Desjardins. Il a pris sa retraite à 57 ans. Ça ne me dit rien du tout. Il a aujourd'hui 61 ans. Il voulait se retirer jeune pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de son énergie, de sa forme, pour pouvoir voyager à vélo, dit sa compagne. Opticienne d'ordonnance, elle n'a pas hésité à quitter son emploi pour vivre cette aventure avec lui. En 2014, les amoureux ont d'abord traversé le Canada d'est en ouest. Moi, j'ai jamais de faire ça.
Avec le vent de face.
Le vent de face. Le voyage devait se poursuivre, mais Hélène s'est cassée une clavicule. En 2016, 2 ans plus tard, ils ont tout simplement repris là où ils avaient laissé, avec une nouvelle assurance, celle d'aimer le nomadisme de mois en mois. Cette fois, c'était du sérieux. Ils ont vendu leur maison de Belœil, la voiture d'Hélène et la plupart de leurs possessions. Entre les nombreuses visites d'acheteurs potentiels, le couple devait recevoir tous les vaccins pour plus de 3 000 $ de vaccins. Je m'occupais de vider la maison tout en travaillant à temps plein et j'apprenais à tenir un blog. J'ai trouvé les derniers mois avant le départ stressants, confie Hélène. La maison n'a été vendue que 10 jours avant le jour J. Là, j'imagine Marie qui commence à
fuir. Stressant,
oui. Normand, lui, a eu quelques difficultés à quitter ses deux grands-enfants. C'était émotif. Mais avec les réseaux sociaux, on part sans vraiment partir. Le 16 juillet 2016, comme à peu près il y a 2 ans, le couple a donné ses premiers coups de pédale à Calgary. Quelques bris mécaniques ont compliqué les premières journées, mais pas au point de gâcher leur enthousiasme. Hélène et Normand ont traversé 17 pays. Tout au long de leur périple, ils ont pédalé en moyenne 80 km par jour, autour de 3 à 5 jours par semaine.
C'est un bon rythme.
On avait tout notre temps. On n'avait aucun billet de retour à date fixe. Ça change la dynamique. On a fait les détours qu'on voulait. On acceptait les invitations sans stress. Même le lieu final de notre voyage a été déterminé à la toute fin, nous dit Normand. On prenait une semaine de vacances tous les 2 ou 3 mois. Il prenait des vacances en plus. C'est le bonheur d'être son propre patron. Le plaisir et les rencontres ont été au cœur de leur aventure. Avant, je pensais qu'un voyage, c'était visiter des endroits, des lieux, des monuments. Aujourd'hui, je sais qu'un bon voyage dépend surtout de la qualité des contacts sur place, nous dit Hélène. Le couple admet que le défi a été difficile, physiquement et mentalement, mais aussi enrichissant. Le voyage à vélo favorise la confiance en la vie, dit la cycliste. On part le matin sans savoir où l'on dormira le soir. Il nous est arrivé, à quelques reprises, quand la nuit tombait, de ne pas avoir d'endroit où coucher. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait, quelqu'un qui nous aidait. C'est confrontant au début, ça crée de l'anxiété, mais on s'y fait.
Oui, parce que là, tu peux quand même toujours pas dormir dans ta voiture.
Non, mais je pense qu'ils traînaient leur tente, eux autres.
Ah oui, j'imagine, parce que...
Oui, ils traînaient leur tente. Ouais. Le couple a opté pour le tandem après un premier voyage à vélo en Italie en 2009. Les deux roulaient alors sur des vélos simples. Normand devait toujours m'attendre en haut des côtes. J'étais beaucoup moins forte que lui. Le tandem a l'avantage d'équilibrer les forces. On est ensemble toute la journée et on fournit ce qu'on peut comme effort, dit-elle. On roule plus vite, on finit les journées plus rapidement, moins fatigué, ou on se rend plus loin, ajoute Normand. Si le cyclotourisme n'est plus une façon inhabituelle de voyager, l'utilisation du tandem comme moyen de transport demeure plus rare.
Partout
où nous sommes allés, où nous sommes passés, à partir du Mexique, le tandem a été un objet de curiosité, précise Normand. Ça nous a ouvert des portes. C'est une machine particulière. Les gens étaient curieux, venaient nous voir. J'ai souvent fait faire des tours aux enfants en fin de journée. Les parents venaient nous jaser et, de fil en aiguille, on avait une place pour monter notre tente. Le Mexique et le Brésil ont été nos gros coups de cœur pour les habitants. Les gens nous ont beaucoup aidés spontanément. « Vous cherchez un endroit pour votre tente? »« Attendez, je vais appeler mon beau-frère, » dit Hélène. Au départ, on avait des inquiétudes concernant la sécurité dans ces deux pays, mais on a été agréablement surpris par la chaleur des gens, nous dit Normand. Jamais, au Brésil, nous ne nous sommes sentis menacés. Il y a une importante communauté cycliste. Ils ont aussi apprécié les petits villages des montagnes du Pérou. Quant aux plus beaux paysages qu'ils ont pu voir, les montagnes rocheuses canadiennes ont charmé Hélène. Leur prochain défi, le couple parcourra le Québec tout l'été à la rencontre de gens, familles et amis qui les ont suivis à distance durant leur périple. C'est à notre tour de les entendre, d'en apprendre plus sur eux. Rouler au Québec l'été, c'est génial, nous dit Normand. Le retour au pays est aussi plus doux. Hélène compte reprendre le travail dès l'automne. Le couple se trouvera un appartement en attendant le prochain voyage en 2019, 6 mois sur les routes d'Europe.
Mmh. Wow.
Un petit conseil aux débutants. Pour Normand, il dit, il faut commencer à petite échelle pour voir si ça nous convient. Avec les enfants, on s'adapte à leur rythme. On commence tôt et ils s'habitueront vite aux aléas du cyclotourisme. Une averse de 2 heures ne leur fera plus peur. Hélène recommande, elle, de s'informer et de demander conseil sur divers blogs de cyclotourisme. Alors, c'était leur plan de retraite de, sous la plume de Sophie Allard dans la presse du 18 juillet.
Alors,
Monique?
Oui.
Est-ce qu'il est trop tard pour moi?
Ça dépend du contexte.
OK.
Alors, sous la plume de Keira Betayeb, pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018, un article intitulé « À quel âge apprend-on le mieux une langue étrangère? » Alors, depuis 2016, en France, les rudiments de l'anglais sont enseignés dès le CP. Alors, le CP, c'est l'équivalent de la première année au Québec. Et la deuxième langue, dès la cinquième, donc le secondaire 1, l'équivalent du secondaire 1. Apprendre une langue vivante dès le plus jeune âge n'est pas une nouveauté en Europe. Les pays nordiques s'y sont mis dès la fin des années 50. Mais est-ce qu'on apprend réellement mieux une langue plus jeune? En théorie, le plus tôt, c'est le mieux. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui attestent que, dans le cas de l'apprentissage d'une langue en situation naturelle, les plus jeunes s'en sortent mieux, notamment en prononciation. Alors, par exemple, chez les immigrés italiens, entrés aux États-Unis entre 6 et 20 ans, seuls ceux arrivés avant 12 ans acquièrent un excellent accent américain. On ne sait pas si c'est une bonne idée, mais...
C'est ce que je pense.
Ça dépend
de quelle région des États-Unis, c'est ça. Idem en grammaire. Parmi des Chinois et Coréens arrivés dans le pays de l'oncle Sam, toujours les États-Unis, ceux de moins de 7 ans à leur entrée font aussi bien que les natifs anglophones quand ceux arrivés plus âgés ont davantage de mal. Par ailleurs, plusieurs travaux d'imagerie cérébrale, ça fait partie maintenant de tout le contexte de fond des recherches qui touchent le cerveau, ont révélé, lorsqu'on acquiert une langue à un âge plus tardif, que le cerveau active des zones distinctes quand il utilise la langue maternelle et la langue seconde. Tandis que si cette dernière est apprise plus tôt, bien le cerveau la traitera à l'instar de la première, ce qui suggère qu'elle est aussi bien maîtrisée à ce moment-là.
Okay.
Pourquoi ces difficultés croissantes avec l'âge? Le temps passant, notre cerveau deviendrait moins plastique, pour ne pas dire qu'il se rigidifie. Mm-hmm. Est-ce que c'est dans nos attitudes aussi? Bon, ce n'est pas dans l'article. Il serait aussi plus fortement...
Commençons une discussion.
plus fortement imprégné par la langue maternelle, rendant plus compliqué de restructurer le système linguistique en apprenant une deuxième langue. D'où l'idée d'une période critique au-delà de laquelle acquérir une nouvelle langue est plus difficile. Seulement, l'âge proposé pour la fin de cette période varie, selon les études, de 5 à 15 ans. Mais c'est quand même relativement jeune, pourrait-on dire. C'est une remarque de la psycholinguiste Michèle Kell, qui est auteur de « L'acquisition de plusieurs langues », si jamais on veut approfondir le sujet.
Mm-hmm.
Difficile d'y voir clair. D'autant que si l'effet de l'âge il y a, en situation d'immersion, les choses sont différentes. Ça répond un petit peu à ta question.
Mm-hmm.
Dans l'apprentissage scolaire, il n'y a pas d'évident effet de l'âge d'exposition. Car tout ne dépend pas que de l'âge. Compte aussi le temps d'exposition à la langue. Alors, à l'école, c'est forcément relativement limité. La manière aussi dont elle est enseignée et la motivation. Hein, on pourrait faire un cercle soit autour et puis mettre en étoile tous ces éléments-là. Un adulte très motivé par l'apprentissage d'une langue qui le ferait évoluer dans son travail peut mieux réussir qu'un enfant forcé de l'apprendre à l'école. Illustre Jonathan Granger, chercheur au laboratoire de psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai prononcé son nom à l'anglaise parce qu'en fait, il n'est pas de langue maternelle, en française.
Ouais.
Alors, ce chercheur d'origine anglaise, au français impeccable, sait de quoi il parle. Il ne l'a vraiment appris qu'en venant travailler ici à 22 ans. Que faire alors? Pour ce qui est de l'enseignement, mieux vaut intervenir soit avant l'école primaire, quand l'enseignement se fait surtout via l'oral, soit après la stabilisation de l'écrit, donc après la première année, dans l'article on dit le CP. Bref, à l'école, sont importantes la manière plus ludique que scolaire d'aborder la langue pour la motivation et l'exposition à l'enfant à un langage oral aussi naturel que possible, résume Jonathan Granger. En complément, pouvons-nous totalement oublier notre langue maternelle?
Ah, c'est une bonne question.
Oui, plusieurs, plusieurs athlètes, particulièrement les joueurs de hockey qui s'en vont jouer dans un milieu anglophone, ont tendance à perdre leur français.
L'oublier partiellement, oui.
OK.
Totalement, non. En dehors des cas pathologiques, une perte des capacités dans la langue natale peut survenir chez certains individus qui apprennent une autre langue. On appelle ça les bilingues tardifs. Tout apprentissage débute par un transfert de connaissances de la langue maternelle à la langue étrangère. On l'a vu dans l'article précédent. Il est alors possible que la nouvelle langue devienne dominante. En étudiant ce phénomène, on voit les compétences linguistiques dans la langue primaire s'éroder. Deux raisons peuvent être à l'origine de cette détérioration. Première possibilité, la langue natale est de moins en moins utilisée et dans ce cas, la mémoire du sujet ferait tout simplement défaut. Seconde hypothèse, l'influence directe de la nouvelle langue entraînerait une réorganisation cérébrale afin de s'y adapter. Alors, plusieurs exemples témoignent de ce déclin, l'oubli de mots, la confusion dans la syntaxe, l'accent provenant de la nouvelle langue. Mais, pas de panique, la perte relative de la langue primaire, n'est jamais irréversible. Okay. Alors, c'était un article de Keïta Betayeb pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018.
Okay. Moi, ça me soulève un certain nombre de questions.
Oui.
Que je vais te lancer. Peut-être que tu pourras, dans tes prochaines lectures, regarder ça.
D'accord.
Une fois qu'on a appris une deuxième langue, est-ce que c'est plus facile d'en apprendre une troisième?
Si elle est bien consolidée, je te dirais que oui.
OK.
Parce que si elle n'est pas bien consolidée, il va y avoir interférence, encore une fois, de la structure linguistique.
OK. Puis ma deuxième question, c'est apprendre l'anglais ou l'allemand ou... C'est des langues qui, jusqu'à un certain point, se ressemblent un petit peu, mais l'arabe, le chinois, est-ce que...
Ben, ça cause d'autres défis, puis c'est toujours, je pense, lié... Ben là, c'est Monique 101 qui répond, hein? mais c'est lié toujours à la structure mentale qui est exigée de l'individu et du contexte d'immersion. Quand on a besoin de manger, on va apprendre.
Okay.
Je peux en faire foi.
Merci beaucoup.
Quand je me réveille, je veux du silence. Lui seul sait m'écouter. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance. En termes de conseils beauté, on aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. La lumière du mot, c'est dans la note qu'elle devient réverbe. Je m'offre à lui nu comme un verre qui n'est pas alexandrin et lui parle avec une voix qui se marie avec son grain. Je me pars de laine, lui parle des vers de Verlaine. Je m'épile électrique, il aime mes va-et-vient. Rouge à lèvres, sourire blanc, rimmel, bleu, méthylène. Lui sait que sous mes bonnets, je rêve de toi, phrygien. Dans mes vieux habits, multiples propositions, aucun article n'est défini. Je lui parle, il ne répond pas, c'est une drôle de séduction. Le paradoxe, c'est que de ça, je sais faire abstraction. C'est de lin et de coton qu'il compose ses oraisons. Quand il réfléchit peu, il me croit sage comme une comparaison. Mais moi, je serai.
dit si je pléonasme, il nie ma morphologie d'enfant.
Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester.
Les compliments en circonstanciel, lui, il ne sait pas les faire.
Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester.
Les compliments en circonstanciel, lui, il ne sait pas les faire.
Vocalise des immondices, son cœur de métal dérobe les formes de ma robe qui plisse.
J'enfile comme des métaphores mes cols enfilés,
et il plaide la folie tout au long de mon défilé.
Il m'épuise à ne pas parler, à rester de glace pourtant. Dans la chaleur de mon souffle, ce sont des cœurs que je lui trace.
J'aimerais que l'image qu'il renvoie ne puisse pas s'estomper,
qu'il me dise que je suis belle car je ne peux pas le laisser tomber.
On est belle, faudrait être polyester.
Le trio LEJ nous chantait Le Verbe.
Oh, Le Verbe! Alors, on passe de l'apprentissage de la langue à comment adapter l'enseignement aux garçons.
Oui, c'est un texte de Marc-Antoine Boudreau qui est publié sur le site RIRE, R-I-R-E, le réseau d'information pour la réussite éducative, le 16 juillet. Dans un autre article publié précédemment qui s'appelait « L'école favorise-t-elle vraiment les filles? » On présentait les résultats d'une méta-analyse qui montrait les performances scolaires systématiquement à l'avantage des filles, d'une part, et les possibles facteurs qui expliquent cet état de fait. Dans cet autre article que je vous présente aujourd'hui, publié sur le site Web Innovation Sainte-Anne, on s'intéresse aux facteurs qui peuvent expliquer les difficultés accrues des garçons sur le plan scolaire et les pistes de solutions pour y pallier. Dans cet article intitulé « Enseigner aux garçons », Isabelle Sénécal et Claire Bondel présentent des statistiques qui démontrent que les garçons présentent un risque plus élevé de devenir des élèves soit à problème, soit handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. On parle des élèves HDAA. Ils seraient, par exemple, significativement plus susceptibles d'être renvoyés de l'école, de présenter des troubles émotionnels, d'être autiste, de souffrir de dysorthographie, de dysphasie ou d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les élèves TDAH. Le genre n'est pas seulement une question de développement culturel et social, il est inné et se développe ensuite au sein de la culture. Sénécal et Bondel expliquent « L'échec de notre système éducatif auprès des garçons en faisant ressortir les résultats de différentes recherches sur le cerveau, sur la puberté et sur les préjugés des enseignants envers les garçons. Les résultats des recherches consultées par Sénécal et Bondel indiquent que les rôles assumés par les hommes et par les femmes depuis des milliers d'années ont modelé le cerveau de l'homme de manière à le préparer au mouvement et celui de la femme à la parole et aux échanges. Plusieurs chercheurs ont aussi établi que des différences structurelles existent entre le cerveau masculin et le cerveau féminin et qu'elles sont impliquées, ces différences, dans le développement langagier tardif des garçons. Les difficultés scolaires de certains garçons s'expliqueraient aussi par le retard de leur puberté par rapport à celle des filles. Cette puberté hâtive des filles dans leur parcours scolaire serait associée à une croissance neurologique importante et au développement de la capacité d'abstraction. Les garçons bénéficieraient aussi de ces développements neurologiques, mais un peu plus tard dans leur parcours scolaire, et la sécrétion de testostérone qui accompagne leur puberté affecterait souvent négativement leur comportement et leur niveau d'énergie. Un autre facteur qui nuit à la réussite scolaire des garçons serait la présence de stéréotypes véhiculés par les parents et les enseignants qui se traduisent par des attentes différentes à leur égard. Ces attentes s'accompagneraient souvent d'un traitement particulier auquel les garçons répondent en modifiant leur comportement. C'est ce qu'on appelle le phénomène, l'effet Pygmalion. Bien que le caractère génétique du sexe soit indéniable, une grande partie de la construction comportementale des garçons est déterminée par l'éducation qu'ils reçoivent et le comportement social qu'on adopte envers eux. Sénécal et Bondel concluent leur article en dressant une liste de pratiques issues de la recherche qui pourraient permettre non seulement de développer certaines compétences qui font défaut aux garçons, mais aussi de créer un environnement d'apprentissage propice à leur réussite, parce que s'appuyant, entre autres, sur leurs caractéristiques initiales, mettez ça en guillemets, le tableau qui suit présente un résumé de cette liste. Je ne vous lis pas le tableau complet, mais je vous présente deux ou trois items. Donc, les garçons ont besoin d'un chef et d'un héros. Donc, ce qu'on pourrait mettre en œuvre avec les garçons en classe, c'est partager des centres d'intérêt avec eux, montrer que les garçons aussi peuvent s'épanouir dans des domaines féminins et, par exemple, impliquer les pères dans le suivi scolaire.
Les pères, on parle des papas. Là.
Des papas, oui. Les garçons ont besoin de moins de règles et de moins de mots. Donc, on pourrait simplifier, limiter les règles de vie de la classe, les appliquer de façon constante. Les garçons font référence à l'application de méthodes ou des méthodes des jeux vidéo. Donc, on pourrait utiliser le jeu et la compétition pour motiver les garçons et leur apprendre le respect des règles des autres. Donc, organiser des activités avec un but à atteindre, créer un défi difficile en le découpant en étapes, créer un défi avec un taux de succès adéquat. Ici, on dit 80 % de réussite. Leur donner la possibilité d'essayer à nouveau, respecter aussi les garçons qui sont moins compétitifs, parce qu'il y en a quand même. On termine, elle rappelle, Sénécal et Bondel, à la fin de leur article, l'importance de communiquer davantage avec les garçons, de valoriser leurs qualités, le travail à l'ordinateur qui les motive, et de lutter contre tous les stéréotypes, ceci afin de mieux adapter le milieu scolaire aux spécificités des garçons, à leur comportement naturel et de les aider à améliorer le rendement scolaire. Alors, on peut trouver ce texte sur le site RIRE le 16 juillet.
Merci, Marie. Merci. Avant de vous laisser pour la deuxième partie, je vous dis le chiffre de la semaine, 70 000. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien,
c'est très beau.
C'est le nombre d'ours noirs qu'il y a au Québec. Alors, bon camping à tout le monde. Et au retour, on vous parle justement de bois. On va marcher dans le bois, puis après ça, on s'en va dans la lune un peu. Et puis, on finit en jouant au basket. Alors, à tantôt.
Vous écoutez Les Voix de service.
mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Canal M, c'était la Javanaise par Madeleine Perrot.
Je suis presque tenté de, Maurice, de sors-nous-en une autre comme ça, c'était tellement bon. Ça faisait matin en tout cas. Mais on est ici pour vous faire connaître des articles qui nous ont frappés et ce qu'on va faire, avec plaisir d'ailleurs. Et je vous amène marcher dans le bois. Je ne sais pas s'il va y avoir des ours noirs.
C'est ça, j'allais dire, il y en aura combien sur ton chemin?
Alors, ça s'intitule « 10 choses que j'ai apprises en marchant 40 jours dans le bois ». C'est écrit par Anne-Marie Brassard, c'est elle qui a marché. C'est dans le blog du magazine Espace et ça a été mis là le 3 juillet 2018. Et si l'article vous intéresse, allez voir dans le blog du magazine Espace parce qu'il y a plusieurs liens, dont une vidéo qui est très intéressante. Je n'avais jamais randonné plus de 3 jours d'affilée avant de me mesurer aux 650 kilomètres du sentier international des Appalaches qui se tortille entre Matapédia et Cap-Gaspé en Gaspésie. Mm-hmm. Là, je pense qu'au début, vous pensiez que je vous amenais quelque part dans le monde. C'est en Gaspésie. Rien de mieux qu'une bonne dose d'inconnu pour se shaker là-dedans à grands coups de dehors. Et je me suis dit oui. Pour apprendre sur le tas et réaliser qu'en marge de ma vie confortable, il est possible de rencontrer le bonheur, le vrai, dans une foutue paire de bas propres. Alors voici les 10 choses qu'elle a apprises. Premièrement, le monde n'arrête pas de tourner. Travail, famille, budget, santé, la liste des raisons d'abandonner un tel projet est longue, alors qu'il suffit souvent d'être inventif, de bien planifier et de se bouger les fesses. Pendant que je suais ma vie en avançant à 3 km à l'heure, le monde a survécu à mon absence sans même ralentir. Il s'est adapté. C'est à la fois troublant et rassurant de réaliser qu'au fond, le monde n'a absolument pas besoin de nous, qu'il suffit d'oser. Deuxièmement, les petites bulles. Ils ont quelques affinités avec les petites brous qui savent tout, incluant ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie. Les petites bulles ne sont pas méchants, ils veulent notre bien. Mais je préfère les ignorer. J'ai la chance d'avoir des proches qui ne comprennent pas toujours mes idées farfelues, mais qui m'encouragent à les réaliser. Je prends leurs bons conseils et laisse les « oui, mais » des autres loin derrière. Troisièmement, préparation versus improvisation. Il y a autant de manières de marcher les 600 kilomètres du sentier qu'il y a de randonneurs, mais je vous confirme que le gars, parti avec une patate crue et un sac de bagel humide, n'a pas fait long feu. Sans faire de zèle, une bonne préparation
patate
pour un défi... c'est ça qui est écrit.
Qu'est-ce que c'est ça?
Drôle d'idée, en tout cas.
Oui, on va lui conseiller autre chose.
Mesdames.
Ah, excusez-moi.
Sans faire de zèle, une bonne préparation pour un défi du genre augmente clairement les chances de réussite. J'allais régulièrement marcher avec des dictionnaires dans mon sac à dos pour m'entraîner. J'ai passé des heures à peser les pour et les contre de tel ou tel morceau d'équipement et à étudier les cartes du sentier. Pour moi, la préparation est aussi intéressante que l'aventure elle-même. Elle donne un outil précieux, la confiance. Quatrième chose que j'ai apprise en marchant 40 jours dans les bois, accepter l'inconnu. Je ne pouvais pas prévoir qu'il mouillerait les 20 premiers jours de la randonnée, que mes bottes imperméables prendraient l'eau après 30 minutes et que j'allais me taper une mini crise d'angoisse le matin du mont Nicole Albert. Si vous voyez la vidéo, le mont Albert, le sentier, là, il est vraiment proche du précipice. Bien se préparer est une chose, mais accepter qu'on ne contrôle pas tout en est une autre. J'insiste.
Il y a ici un message.
Il y a un message.
Ce message a été retenu et financé par...
J'espère qu'il a été retenu. Aujourd'hui, quand l'inconnu me stresse, je me rappelle que c'est en mettant un pied devant l'autre que j'avance vers mes objectifs. Tout simplement. Pas en sautant des étapes, en m'imaginant tout un tas de scénarios catastrophiques et en refusant de m'adapter au changement. Cinquièmement, se fixer de petits objectifs. Cela, je l'aime beaucoup. Le prochain ruisseau pour se ravitailler, le point de vue qui s'en vient, la fameuse pause chocolat. Découper 650 km de sentier en petits moments gratifiants est fabuleux pour la santé mentale, croyez-moi. Ça m'a permis de relativiser le fait que je marchais de 6 à 8 heures chaque jour avec un sac de 35 livres sur le dos pour le plaisir. J'applique cette méthode au quotidien depuis, quand tout paraît trop gros, trop imposant et que ma motivation a besoin d'un petit coup de pouce. Sixièmement, le piège de la comparaison. Qu'il est facile et inutile de se comparer aux autres. J'ai vite compris qu'il y aura toujours un randonneur plus rapide que moi, mieux préparé, avec un équipement plus sophistiqué, plus cher, plus tout. Et alors? Ce n'est pas une compétition. J'ai marché le sentier en 40 jours alors que d'autres le font en 30. Est-ce que ça m'enlève quelque chose? Au contraire. J'ai fait la rencontre de gens inspirants tout au long du sentier et compris qu'on apprend bien plus que les autres en s'ouvrant à eux qu'en se comparant. Septièmement, la stratégie des bons souvenirs. Ça aussi, c'est bon. Le sentier international des Appalaches est une montagne russe d'émotions. Certaines journées semblent interminables. Il pleut. Les moustiques font le party autour de toi, tes pieds déclarent forfait et tu réalises qu'il te reste 10 beaux gros kilomètres avant le prochain refuge. Joie. Dans ces moments-là, j'allais fouiner dans le tiroir à bons souvenirs de mon cerveau pour réfléchir à des moments heureux, des visages familiers, des événements marquants. Tout y passait dans les moindres détails, très efficace pour s'occuper l'esprit lors des journées moins glorieuses. Huitièmement, hommage aux petites choses. C'est fou ce qu'un fruit frais, une douche chaude ou des bas propres peuvent avoir comme effet lorsque notre confort se résume à une poignée d'objets entassés dans un sac. Tout ce qu'on tient pour acquis au quotidien prend instantanément de la valeur. Chaque fois que je reviens de voyage, je réalise qu'apprécier les petites choses est un état d'esprit qui s'opère facilement dans le luxe de nos vies douillettes. C'est pourquoi je ressens souvent le besoin de faire un grand ménage de tous les objets inutiles qui encombrent ma vie et de toutes les pensées négatives qui me polluent. Ça m'aide à revenir à l'essentiel. Neuvièmement, librement sale. Je te regarde, Marie. Au risque de paraître étrange, je me sens libéré des contraintes du monde normal quand je peux me permettre d'être crotté et de m'en foutre. La nature permet cette latitude inédite, ce retour en enfance. Personne ne s'étonne qu'un randonneur n'ait pas pris de douche pendant plusieurs jours, qu'il soit ébouriffé, dépareillé et un brin odorant. Les règles changent en forêt, en voyage, en randonnée. C'est l'endroit où je me sens le plus moi-même, loin des jugements, des modes et des normes.
Grand bien lui faire. Il y en a pour qui c'est un besoin, oui, voilà, de prendre une douche tous les jours.
Et dixièmement, éloge de la lenteur.
Ah, ça c'est bon.
Prendre son temps est un luxe, un art même. Certains arrivent à le faire naturellement, à observer, à contempler. Je les envie vraiment. Même en randonnée, j'ai du mal à ralentir le pas. Je vais rapidement du point A au point B. Je suis efficace quand je range mon équipement. Je ne m'attarde pas trop, même si je sais apprécier le moment. C'est ma manière d'être. Et je me dis qu'heureusement, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre au fil de mes randonnées. Alors, c'était 10 choses que Anne-Marie Brassard a apprises en marchant 40 jours dans le bois. Et vous pouvez les trouver dans le blog du magazine Espace.
C'est comme Jésus-Christ dans le désert.
Un peu, oui, 40 jours.
40 jours, oui.
Thank you.
Alors, quand on marche 40 jours, ça arrive qu'on soit dans la Lune.
Et qu'on voit la Lune.
Et qu'on voit même la Lune.
Ben oui, tout à fait.
Mais là, tu vas nous ramener sur Terre.
Sur Terre. Oui, vas-y. Un mix des deux.
Vas-y.
Et même à Montréal.
Alors,
c'est sous la plume de Philippe Mercure dans la Fraise Plus du 16 juillet 2018, un article qui s'intitule « Un morceau de lune au centre des sciences ». Ah! Alors voici un récit d'un étonnant voyage. Il y a 3,8 milliards d'années, sur la lune, un volcan entre en éruption, crachant sa lave à la ronde. Celle-ci se refroidit et forme un plateau de roches volcaniques appelé basalte. Sur Terre, à peu près à la même époque, la vie apparaît. L'évolution suit son cours et donne naissance aux êtres humains. Ceux-ci développent leurs moyens technologiques. En décembre 1972, deux de ces humains, Eugene Cernan et Harrison Schmitt, posent le pied dans cette vieille vallée lunaire volcanique. Ils sont astronautes américains et font partie de la mission Apollo 17. Lors d'une marche lunaire, Harrison Schmitt ramasse un caillou de basalte et le ramène au module lunaire. La roche, accompagnée des trois astronautes de la mission, reviendra sur Terre à bord du module de commande. Personne, depuis, n'est retourné sur la Lune. Le caillou, poétiquement nommé échantillon 70215, je le répéterai souvent.
Je pensais que c'était 214.
215, est entreposé dans une chambre forte au centre spatial Lyndon B. Johnson à Houston, au Texas, avec de nombreuses autres roches lunaires. Les décennies s'écoulent et il ne sera jamais étudié. Par contre, il y a quelques années, la gouverneure générale du Canada de l'époque, Julie Payette, de maintenant, Julie Payette,
qui était là-bas,
alors directrice du Centre des sciences de Montréal, fait une demande à la NASA. Obtenir une roche lunaire qui pourrait être vue par le grand public. Non seulement la NASA a dit oui, mais elle nous a offert une roche qui peut être touchée. Raconte Sarah Arsenault, qui, elle, est une chargée de projet au Centre des sciences de Montréal. Cette roche, coupée directement sur l'échantillon 70215, est la 10e roche touchable lunaire mise en circulation dans le monde. Alors, fait inusité, peut-être serons-nous très émus, Donald Trump, lorsqu'il a annoncé un éventuel retour des astronautes sur la Lune avant de se rendre sur Mars, s'est aussi fait offrir un fragment de l'échantillon 70215.
Là, c'est mais, quel bout qu'il faut qu'on soit ému, là?
Ben, parce qu'il a reçu ça, mais deux fois plus léger que celui promis à Montréal. Donc, c'est rien.
Bon.
On peut être fier de ce qu'on a reçu.
Il va nous sortir une nouvelle taxe quelque part pour
ça. Oui, on va dire qu'elle est deux fois plus grosse.
Ouais.
Au Centre des sciences de Montréal, il faut désigner un responsable pour aller chercher le précieux caillou à Houston. Sarah Arsenault, chargée de projet que j'ai nommée tout à l'heure, n'ose lever la main. Mais celle qui se décrit comme une fan finie d'espace rêve de se voir confier la mission. « Je sais bien qu'à 5 ans, tout le monde veut devenir astronaute, mais moi, ça ne m'a jamais lâchée. Ado, j'étais dans un club aérospatial où on faisait des missions de longue durée dans une navette de plywood », nous raconte-t-elle.
Là, on est loin des préjugés, hein, madame?
Ah, totalement. Le Centre des sciences comprend que pour parler aux passionnés de la NASA, il faut une femme tout aussi passionnée. Alors, vous devinez, Sarah Arsenault est désignée. Le 1er avril, je pars pour Houston et j'ai 12 ans dans ma tête. Tous mes collègues en ont entendu beaucoup trop parler, nous raconte-t-elle. Sur place, Sarah vit son rêve de petite fille. Elle voit le centre de commande des missions Apollo, les maquettes grandeur nature des modules de la Station spatiale internationale, la fusée Saturn V. Après de minutieuses procédures de décontamination et l'enfilage d'un habit spécial, on la fait pénétrer dans une chambre forte protégée par une lourde porte. tous les échantillons des... C'est la porte qui s'ouvre.
Ouais. On a des bruitages.
Tous les échantillons des missions Apollo y sont entreposés. Et on lui remet un petit morceau de lune. Ta-da-da-da. Comment rapporter le trésor? J'imaginais une mallette noire et moi menottée après, lance Sarah Arsenault. Mais pour éviter d'attirer les regards, les responsables de la NASA placent plutôt le fragment de lune dans une gamelle, une sorte de boîte à lunch dans le fond, oui. aux allures de petites glacières de camping. Pourvu qu'il n'y ait pas d'ours dans
Mais
l'avion.
Qu'est-ce qu'elle va déclarer à la frontière?
Attends, j'y arrive. Je suis super émue, mais aussi très fébrile. Je ne veux pas l'oublier dans le taxi ou aux toilettes. Voyant la gamelle, les douaniers croient à de la nourriture et veulent la saisir. Je leur ai dit, d'une voix basse, « Non, 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 c'est une roche lunaire. » J'avais évidemment une lettre de la NASA.
Ah, OK.
Ils ont été super respectueux et ne l'ont pas passé au rayon X. C'est avec son colis sur les genoux et non dans les compartiments à bagages que Sarah Arsenault fait son vol de retour. La roche lunaire sera dévoilée demain, vendredi, donc 20 juillet.
Oh, par... Vraiment demain?
Demain, oui. Oh. Par Sarah Arsenault, en présence de nul autre que notre astronaute québécois, David Saint-Jacques. Et elle sera exposée au public dans une zone d'exposition traitant de la recherche de l'eau dans l'univers. Ça a l'air d'une roche banale. Elle a la taille, ça va peut-être vous décevoir, d'une gomme à effacer d'écolier.
Oh boy.
Mais on est vraiment honoré de la voir chez nous, nous dit Sarah Arsenault. Toujours un petit complément. Le fait est peu connu, mais le tout premier contact de l'être humain avec la Lune a une dimension québécoise. On connaît le bras québécois, le bras canadien, mais il y a quelque chose de québécois. C'est que les pattes des modules lunaires des missions Apollo, techniquement les premières à avoir touché la Lune, ont été fabriquées à Longueuil par l'entreprise Héroux, qui est aujourd'hui Héroux DevTech. D'ailleurs, on en parlait aussi dans la presse plus hier de cette entreprise-là. Ces pattes ne sont jamais revenues sur Terre, mais l'une d'elles, qui n'a jamais pris le chemin de l'espace, sera aussi exposée au Centre des sciences aux côtés de la roche lunaire.
Oh,
c'était donc un texte de Philippe Mercure pour la presse plus. Mercure, voilà.
Bon, rester dans l'espace.
C'est ça, pour la presse plus du 16 juillet 2018.
Un gros merci, c'était vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si je vais faire demain, là, mais... Alors, Marie? Là, je suis un petit peu jaloux de ton sujet, là, quand même.
Oui, quand même, parce que quand je vais même. Jouer dans tes plates-bandes.
Jouer le bon mot.
Le basket comme moteur d'inclusion sociale et d'éducation citoyenne. C'est un texte de Françoise Ruby, publié sur le site 100degrés.ca le 13 juin dernier. École secondaire et primaire, pied d'immeuble, fête de quartier, l'association Action Basket Citoyen intervient partout pour que les jeunes des quartiers défavorisés de Lyon, en France, aient accès à des activités sportives motivantes et formatrices. Heure du midi dans la cour du collège Gabriel Rosset à Lyon, les Green Anonymous affrontent les Dark Angels.
Ah oui, on est en France.
On est en France, oui, c'est ça. Mm-hmm. Au cours d'un match de basket endiablé, l'arbitre tempère les ardeurs des joueurs et joueuses, des journalistes sont à l'œuvre et des partisans s'époumonnent. Tout ce beau monde a entre 11 et 15 ans. Et l'affaire est sérieuse. Le tournoi Challenge Gabriel Rosset se déploie sur toute l'année et les 600 élèves du collège y participent d'une façon ou d'une autre deux fois par semaine. Ce projet est mis en œuvre par Action Basket Citoyen, dont Jean Bellemare, ingénieur urbaniste à la retraite, est le cofondateur et le président bénévole. Cette association organise de multiples activités dans certains quartiers défavorisés de Lyon. Leur objectif, l'éducation citoyenne des jeunes par le sport. En 2006, nous avons commencé par sillonner les quartiers défavorisés de Lyon dans un autobus aménagé en terrain de sport ambulant, les mercredis et samedis après-midi, ainsi que durant les vacances scolaires, raconte Jean Bellemare. 6 ans plus tard, nous avons décidé d'offrir nos activités tout au long de l'année en intervenant dans les écoles, à l'heure du midi et après les classes. Et puis en 2013, s'est ajouté le challenge Gabriel Rosset. Le visage du collège a radicalement changé grâce à ce projet qui rythme désormais le quotidien des élèves et de l'équipe école. Le climat s'est amélioré au collège Gabriel Rosset où il y avait énormément de problèmes de discipline, de retard et d'expulsion, explique Mathias Belmer. Alors, c'est dans la même famille.
La famille des Belmer.
Oui, c'est ça. B-E-L-M-E-R. Dès la première année, les rapports disciplinaires ont chuté de 30 %. Pas étonnant lorsqu'on constate à quel point le projet est intégré à l'ensemble de la vie sociale et scolaire du collège. Par exemple, en début d'année, les élèves de chaque classe créent le blason de leur équipe pendant le cours d'éducation civique, choisissent un animal totem et mettent au point un rituel d'avant-match. La mixité filles-garçons fait partie de nos valeurs fondamentales. Il doit y avoir des joueuses dans chaque équipe et à chaque match, tel que mentionné dans le règlement intérieur du collège. Autre point important, le résultat du tournoi ne dépend pas seulement des points marqués pendant un match, mais aussi de la qualité du travail des arbitres, du comportement des partisans et de la qualité des articles publiés dans le journal du collège par les journalistes en herbe. De plus, les points ne sont pas attribués individuellement, mais à toute la classe. Ainsi, si trop d'élèves arrivent en retard, l'équipe écope d'une pénalité. Du côté de l'équipe école, le professeur principal de chaque classe en est l'entraîneur et les surveillants s'occupent de l'encadrement des matchs, de l'installation et de la gestion du matériel. Le projet a été conçu sur mesure pour ce collège, précise Mathias Belmer, et il tient la route depuis 5 ans, malgré l'habituel roulement de direction et de personnel dans un établissement scolaire. Le succès de cette initiative repose sur plusieurs facteurs, mais le fait qu'il soit intégré au projet de l'établissement, au projet d'établissement du collège, contribue à sa pérennité. Les professeurs qui partent passent le flambeau et les nouveaux enseignants adhèrent au projet sans se poser de questions, d'autant plus qu'ils sont très ouverts à recevoir de l'aide quand ils arrivent d'un collège dont la réputation est moyenne. Mais justement, la réputation du collège s'est améliorée. Alors que seulement 60 % des jeunes décrochaient leur diplôme national du brevet, c'est l'équivalent du secondaire 3 au Québec, en 2013, ils étaient 80 % en 2017. Le crédit va bien sûr à l'ensemble des mesures mises en place par le collège, mais nous en faisons partie. Avec en tête l'idée de suivre les jeunes le plus longtemps possible, l'association a également investi 6 écoles primaires. Le mode d'intervention y est par contre très différent, puisqu'en France, c'est l'instituteur qui enseigne l'éducation physique. Nous sommes présents dans une trentaine de classes et nous collaborons étroitement avec chaque instituteur. L'éducateur sportif d'Action Basket Citoyen et l'enseignant mettent au point un cycle de 10 à 12 séances de 60 à 90 minutes durant lesquelles ils vont travailler ensemble de façon transversale les compétences physiques, mais aussi plusieurs aspects psychosociaux comme le respect des règles et l'apprentissage de l'échec. Les matières scolaires comme les mathématiques peuvent également être abordées. Par exemple, l'apprentissage du calcul de la vitesse peut reposer sur des courses chronométrées effectuées la semaine précédente. Raconter les jeux actifs auxquels ils ont participé permet aux joueurs d'apprivoiser l'expression écrite et orale. 5 éducateurs sportifs et un directeur travaillent à temps plein pour Action Basket Citoyen, ce qui est un tour de force dans le milieu associatif. Depuis 2015, nous intervenons à petite échelle dans un collège qui accueille des allophones, mais aussi des élèves autistes. L'activité sportive sur l'heure du midi contribue à une meilleure cohabitation entre ces jeunes. Donc, tout est loin d'être rose dans les quartiers défavorisés de l'agglomération lyonnaise, mais les milliers des jeunes qui participent chaque année aux activités d'Action Basket Citoyen ont tous l'occasion de marquer des points sur le terrain et dans leur vie. Donc, un texte de Françoise Ruby publié sur le site 100degrés.ca au mois de juin le 13.
Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à toutes les fois qu'on parle d'activité physique dans le cadre scolaire, ça a des effets positifs. Et je fais le lien aussi avec ton article de tantôt sur les stéréotypes des garçons. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Tout à fait.
C'est ainsi qu'on se termine. Il reste 15 secondes à l'émission, mesdames. Alors, on se revoit la semaine prochaine. On dit bonjour et merci à Maurice Bolduc. Et je vous invite à rester à midi. Il y a quelqu'un qui va parler
à 13h.
À 13h, OK. Ouais. Alors,